Section Rennes rentra de permission. Il arriva en pleine nuit, sur le coup du petit matin. Il avait traversé à pied toute cette longue terre ondulée, depuis le train jusqu'au village. Il était saoul de fatigue, de nuit et d'eau de vie. Il s'abrita dans la grange. Deux jours après, il était là au milieu des autres avec de grands yeux étonnés qui semblaient chercher le pourquoi de la chose au fond du ciel gris. Il monta ses lourdes mains jusqu'à son col de chemise et lentement, il déchira tout pour dégager son cou. Il restait là, tout étonné, la bouche ouverte, il ne pouvait déjà plus parler. On le donna à deux infirmiers, on le ficela de rondes cordes depuis les épaules jusqu'aux pieds, parce qu'il se débattait. « Quand on est comme ça on sent plus ses forces », disait la poule. On le chargea sur une poussette et tout ça s'en alla à travers les terres. De ces deux infirmiers en était bien connu. Il jouait de la petite flûte et puis, en se pinçant le nez, il imitait le violon et il jouait comme ça des morceaux de la Tosca. Il revint le soir avec l'autre infirmier. On leur demanda, et alors voilà, ils dirent. Le lendemain, celui de la petite flûte s'en alla, tout seul, du côté de cette longue dune aux chevaux. Dans le courant du jour, le capitaine demanda à la poule, « Tu n'as pas vu mon revolver, il était pendu là. » « Moi, non, » dit la poule. Le cycliste ne suivait pas la piste où on avait de la boue jusqu'aux genoux, il passait à travers les champs, là où l'herbe faisait élastique. « J'ai trouvé un homme mort, » il dit en arrivant. C'était l'infirmier. Il s'était tiré une balle dans la tête, il était couché sur son bras droit, la figure cachée dans le pli du coude. Le revolver était plein de sang. Le capitaine vint. Il essuya le revolver avec son mouchoir. Le soir, il le fit démonter à la poule et graissèrent. Mais de la graisse dans la rainure, il dit c'est toujours là que ça coince. Il essaya l'arme à vide. Le barillet tournait, le chien claquait, ça allait. Il remit le revolver à l'étui et il pendit l'étui à la tête de son lit. Le cycliste arriva encore une fois avec des nouvelles. Il mit pied à terre. On monte en ligne, il dit. Dans la journée, les agents de liaison partirent pour reconnaître les emplacements. On leur donna un repas froid et un bidon de vin. Les lignes étaient loin du village. Ils ne prirent pas d'armes mais seulement leurs bâtons de marcheurs. Ils étaient de retour à l'aube suivante. Le capitaine les attendait devant la porte. Il avait sa tunique et son ceinturon sanglé et il s'était fait beau à sa nouvelle manière, il ne se rasait plus, il avait trouvé un autre système plus pratique. Il coupait ses poils au ciseau contre la peau. Ça lui faisait une tête d'ours. Il avait encore grossi. Il bouchait toute l'ouverture de la porte. L'aube était là quand Jourat revint de la première garde. Olivier l'entendit marcher tout le long de ce boyau de la fraternité qui était juste en face l'ouverture de la sape. « Ils dorment, » il dit en entrant. Ils étaient à peine sur le bord du sommeil. Depuis un moment les choses arrivaient sur eux avec leur bruit, et c'était des petits bruits pas à l'ordinaire des coulis de terre, des choses molles qui passaient dans la tranchée comme du vent. « Alors, » demanda Olivier. « C'est calme, » dit Jourat, « calme, calme, » il dit encore en versant du jus froid dans son quart. Il bute. « Tu as tout vu, » demanda Camus. « Fais le malin, » dit Jourat, « j'ai vu rien que l'alentour, ça me suffit. Moi je te dis ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. Ça a l'air d'être une belle saloperie, tu verras. Le jour était long, long, le ciel vieillissait au-dessus de la terre, toujours plus blanc, toujours plus bas. On s'habitua à lever la tête au-dessus de la tranchée. On ne risquait rien. On ne voyait rien de neuf, l'ondulation de Santerre, le pays tout moisi de brume dans les creux. On n'entendait rien qu'à certaines heures le roulement lointain des ravitaillements. Dans ce moment encore plus épais de midi, passait aussi un corbeau, ça avait l'air d'être toujours le même. Et alors moi, dit Jolivet, quand la poule posa le seau de soupe. Il y en a qu'une pour Chabran, dit la poule. « Et alors moi, » dit Jolivet, « je te dis que j'en attends une, moi ça fait déjà. Tu me casses les pieds, » dit la poule, « s'il y en avait une, je te l'aurais portée. Celle-là, elle est pour Chabran. Fais voir, » dit Jolivet. Face doigt soupira doucement la poule. Il tira la lettre de la poche de sa veste. Jolivet prit la lettre. Il la garda un moment au bout de sa main sans la regarder, puis il lut l'adresse. « Olivier Chabran ?» Oui, il dit. Dans le courant de l'après-midi, il y avait toujours ce silence mou et le bruit d'une goutte d'eau qui tombait dans l'escalier par une fêlure des rondins. Oh, appela Jolivet à voix basse. Olivier tourna la tête. Tu as eu une lettre?
Oui.
Jolivet se tira vers Olivier. Il ne regardait pas Olivier. Il regardait ce qui jouait à la bourre sous la bougie. Prête-la-moi un petit moment, il dit. Je regarderai pas tes affaires. Je lirai juste les mots d'amitié. Olivier mit la main à la poche. Jolivet arrêta le geste. Non, va, il dit, garde-la. À la fin, elle écrira bien, la salope. Et il alla s'asseoir, en haut des escaliers, contre la plaque froide du jour blanc. L'agent de liaison sortait tous les jours. Il s'en allait par la droite vers la 7. Puis on entendait sa boîte à masques qui tapait contre les rondins. Il était revenu.